Culture Club, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF. Christophe Maury.
Yo-Yo Mag, bonjour, vous êtes la petite fille d'Aimé Mag et la fille d'Adrien. Autant dire que vous êtes tombée dedans dès la naissance, dedans. Je veux parler de l'art moderne. Votre grand-père, originaire d'Hasbrook, était prédestiné pour l'artisanat et la gravure en particulier. Et son amitié pour Matisse a tout déclenché, semble-t-il, en quelques années. Avec votre grand-mère, épousée très jeune, et elle avait 17 ans quand elle s'est mariée, je crois, ou 19, il va devenir un incontournable marchand d'art avec des artistes comme Henri Matisse, Marc Chagall, Johan Miró, Fernand Léger, Alexander Calder, Pierre Bonnard, etc. On raconte qu'en inaugurant sa fondation à Saint-Paul-de-Vence, il aurait transmis le trousseau de clés à Malraux, comme pour lui signifier qu'il était ici chez lui et pour rappeler la force de la fondation au sein même du ministère de la Culture. C'est vrai ?
C'est tout à fait vrai. Mais il y a une petite virgule différente, c'est que ça n'est pas lui qui a transmis les clés, c'est ma sœur Florence qui avait 7 ans. Parce que papy trouvait que c'était, pardon, je l'appelle papy,
oui, oui.
Voilà, Aimé Mag a fait cette fondation en fait pour les générations futures. Lui, l'orphelin.
Voilà. Et alors, elle trouve les clés par terre, elle trouve ça marrant, et elle les apporte à Malraux, le ministre.
Non, c'était très protocolaire.
Ah oui.
Et elle les avait sur un coussin rouge. Nous, on faisait un peu la tête. Et on était devant les photographes, tout le monde. On n'imagine pas aujourd'hui un grand musée ou une grande fondation inaugurée par des petites filles qui ont 5 ans, 7 ans et 9 ans.
Une fête extraordinaire. Et puis, vous vous êtes démarqué de la famille pour représenter infatigablement des artistes que vous aimez. On peut dire que vous êtes dénicheur de talent ?
Je me suis jamais posé la question.
D'accord. Donc, vous travaillez au coup de cœur ?
Oui. Au coup de cœur et au faisable. C'est-à-dire, qu'est-ce que je peux faire ?
Oui. Alors, vous venez aujourd'hui avec Thierry Lefort. Bonjour Thierry.
Bonjour. Bonjour à vous. Merci.
Pas n'importe qui, puisque vous multipliez prix exposition dans le monde entier, président de la Riposte figurative. Vous peignez en plein air, nous allons y revenir, et vous exposez cette semaine à la Galerie Guillaume, 32 rue Penthièvre, dans le 8e arrondissement. Il faut pas rater ça. Comment définir votre peinture ?
Ma peinture, elle est extrêmement compliquée et extrêmement simple en même temps, en fait.
Donc, voilà. Au premier coup d'œil, moi, je me suis dit, c'est Cézanne qui revisite Hooper. Alors, c'est impossible, parce qu'il est antérieur au second, mais enfin, c'est un peu l'esprit.
Oui, en fait, je suis plutôt effectivement, je suis quelqu'un qui m'attache, en fait, aux formes, aux couleurs. Je raisonne, j'essaye de démêler, en fait, ce que les gens ont de compliqué devant leurs yeux quand ils regardent quelque chose. Et moi, mon job, c'est de démêler ça pour essayer d'en extraire la quintessence d'une certaine beauté que je trouve. Et j'essaye d'amener ça sous le regard des gens.
Alors vous avez commencé à peindre dès l'âge de 12 ans, et puis vous avez reçu l'enseignement de Philippe Lemaître qui vous a fait perdre un peu le goût de la couleur. Comment dépasser le maître pour retrouver ce qui avait toujours été en vous, c'est-à-dire, entre autres, la couleur ?
En fait, je suis un petit peu tombé dedans, c'est-à-dire que mon grand-père était peintre, j'avais un de mes oncles aussi qui était peintre, donc j'ai toujours baigné un petit peu dans la peinture. Et je ne sais pas si on dépasse le maître un jour, mais en tout cas, ce qu'il faut, c'est travailler. Et c'est ce que j'ai fait, en fait. J'ai travaillé avec des idées que j'avais. Mais ça m'a amené là où je suis aujourd'hui.
Yo-Yo Mag, il travaille comme une brute. J'ai un peu ce sentiment-là.
Il travaille. Je ne suis même pas sûre que le mot « travailler » lui convienne, comme pour moi d'ailleurs. C'est-à-dire qu'il est entièrement dans sa passion. Si je peux me permettre, il me fait penser à quelques artistes que j'ai côtoyés, dont sans doute le plus important pour moi, qui a été Miró,
oui.
Parce que il y a une similitude dans l'intensité de travail, c'est-à-dire il se met totalement au service de son œuvre et non pas l'inverse. Et du coup, oui, c'est un travailleur acharné qui ne produit pas tant que ça finalement, parce qu'il est extrêmement rigoureux sur la finition de ses travaux.
Encore que quelquefois, 3 tableaux par jour. C'est arrivé.
Je peux commencer dans ma tête et matérialiser 3 tableaux, parce que je commence toujours plusieurs tableaux en même temps. Parce que, voilà, comme je me pose beaucoup de questions, et il y a beaucoup de complications qui arrivent au cours des agencements de couleurs, etc. Donc, si vous voulez, on a l'impression que je peux finir 3 tableaux, mais c'est 3 tableaux que j'ai commencé il y a plusieurs semaines.
Alors, peindre en plein air, l'école du plein air, si bien décrite par Zola dans l'œuvre, vous vous trimballez avec vos toiles, vos pinceaux, votre chevalet, vous commencez par dessiner. Quel est le chemin entre le crayon ou le fusain, et la brosse et le couteau ?
Ça, c'est quelque chose que j'ai fait en fait le plein air, c'est important parce que c'est une bonne école. Après que j'ai une fois que j'en avais j'avais su en tirer ce qui me semblait important, je suis passé à autre chose. Mais le travail de plein air, c'est important parce que c'est quelque chose qui développe une certaine spontanéité. Et pour moi, ça m'a plu pendant un certain temps.
Alors, spontanéité, vous, naturellement, vous regardez la lumière, mais très étonnamment, vous commencez par les ombres.
Ben, parce qu'il y avait beaucoup de peintres qui s'occupaient de la lumière, donc je me suis dit, tiens, les ombres, c'est un créneau qui est créatif. Donc je me suis dit, comme tout le monde s'occupe de la lumière, je vais m'occuper des ombres, et on verra.
Et on a le sentiment que c'est l'ombre qui crée la lumière, oui, chez vous, alors que normalement, on pense que c'est toujours la lumière qui crée l'ombre. Mais là, c'est l'ombre qui crée la lumière, et c'est très très frappant, notamment dans vos tableaux américains.
Ouais, j'aime beaucoup ça, c'est vrai que j'aime beaucoup ces ombres, j'aime beaucoup les analyser, j'aime beaucoup essayer de trouver, et du coup j'ai transgressé un peu la peinture classique, c'est-à-dire que les ombres sont toujours en peinture classique, enfin ceux qui connaissent la peinture, ils savent que les ombres c'est toujours un petit peu des glacis, c'est une peinture très diluée, c'est un petit peu quelque chose voilà, qui est connu dans le métier, et moi j'ai fait tout autre chose, c'est-à-dire que j'ai plutôt empâté, et j'ai plutôt fait quelque chose d'autre, pour arriver à mon propre moyen d'expression.
Ce qui fait que la lumière est encore plus légère, je trouve, parce que l'ombre a sa patte.
Bah, de toute façon, comme je dis toujours, quand on veut trouver son propre moyen d'expression, on est obligé de transgresser. Parce que sinon, si on reste dans les codes, en fait, on n'y arrive pas. Donc, pour arriver à ce qu'on veut, il faut transgresser. Donc, c'est ce que j'ai fait.
Vous aimez les grands formats?
Ben, les grands formats, j'aime les petits, les moyens, les grands. J'ai pas vraiment mais disons que les grands formats permettent. C'est-à-dire que quand j'ai fait mon mur, par exemple, à Burbank, je sais pas si on en parlera tout à l'heure, mais.
Énorme.
Oui, 150 mètres carrés à Burbank. Burbank, en plus, c'était vachement sympa parce que c'est vraiment ceux qui connaissent Los Angeles, c'est vraiment la ville du cinéma.
Ah oui, là, c'est à côté de Disney.
Oui, ah c'est oui. Vraiment parce que c'est vrai que dans les années 20-30, c'était Hollywood, mais après, il y a tout de suite Burbank qui est arrivé et les 5 principaux studios sont à Burbank, donc c'était bien pour moi parce qu'en plus, c'est vraiment dans le cœur de la ville d'avoir fait un mur de 150 mètres carrés commandé par la ville. Et pour un Français comme moi, c'était vraiment chouette. Donc c'est vrai que moi, en plus, qui aime bien les grands formats, faire ce mur, c'était vraiment bien.
Dites-moi, vous avez eu des assistants ?
Bah, je devais avoir des assistants au début, et puis après, c'était un peu compliqué, parce qu'il y avait des suites de droits, etc. Donc pour toutes ces raisons, et puis pour moi aussi, parce que je suis assez difficile. Et,
tout seul sur 150 mètres.
Voilà, et j'aime bien travailler seul, ça c'est mon côté.
Sur ces échelles, tout seul.
Tout seul sur 150 mètres carrés.
Voilà, il m'a fallu un petit peu plus d'un mois pour réaliser ça, ouais.
Mais c'est une œuvre énorme. On parle de grand format. Revenons à la galerie rue de Penthièvre, au 32 rue de Penthièvre, la galerie Guillaume. Là, vous exposez des grands formats, au moins au rez-de-chaussée.
Oui, tout à fait.
Parce que ça s'y prête. Et ensuite, au sous-sol.
Il y a un petit peu de tout, en fait. Il y a des formats moyens, il y a des formats... C'est vrai que c'est plutôt des grands formats.
Ouais.
Effectivement, c'est plutôt des grands formats qu'on a souhaité mettre. Mais il y aura aussi des petits, mais...
Et il y a, si je peux vous interrompre, il y a une totale nouveauté que personne n'a encore jamais vue, ce sont des sculptures.
Tout à fait.
Ça, c'est vraiment... C'est le prolongement de sa peinture dans une dimension vraiment qu'il a inventée, parce que c'est pas vraiment sculpté, c'est des constructions tout à fait, je vous dis, prolongement de sa peinture, et notamment des vues californiennes.
Comme si j'avais fait un petit peu des peintures en 3D,
ouais.
Voilà, de mes propres toiles.
Bon, et vous en avez combien ?
Là, il n'y en aura pas beaucoup, il y en aura 5-6, mais bien sûr, dans la tête, j'ai d'autres projets, d'autres...
Rassurez-moi, tout est à vendre. Non, tout est à acheter.
Tout ce qu'il reste à vendre.
Tout ce qu'il reste à vendre. Plus on est pur, plus on est fort, dites-vous quelque part. Giacometti n'aurait pas démenti, évidemment. C'est une exigence pour vous, cette épure en permanence.
Mais oui, parce que comme je dis toujours, c'est vrai que quand on a ce... Pour moi, la peinture, c'est ni plus ni moins. C'est-à-dire qu'au début, je ne sais pas si on prend comme image en fait, un bateau qui est en Méditerranée, qui est vraiment au cœur, qui est vraiment sur le port, avec on allume les moteurs, ça fait plein d'éclaboussures et tout. Et quand on est un jeune peintre, souvent, on veut éclabousser. Exactement comme le moteur qui se met en marche dans l'eau. Et plus le bateau il avance, plus il va vers le large, plus le sillon il se resserre, plus il devient épuré, moins il y a d'éclaboussures. Ah oui. Plus on doit être vraiment, on doit arriver à l'essence. Et c'est tout ça, en fait, c'est très spirituel. Parce que on doit arriver vraiment à l'essence de quelque chose et on doit enlever tout ce qui est... tout ce qui est parasite, tout ce qui est éclabousse, tout ce qui est pour arriver vraiment à la quintessence, c'est vraiment ce que je cherche dans mes tableaux.
Alors, qu'est-ce qui vous inspire au sens où qu'est-ce qui retient votre regard tout de suite? J'ai le sentiment, moi peut-être faux, que l'atmosphère d'un lieu vous prend plus que le motif, comme un instant saisi à la gorge pour reprendre Mallarmé.
Oui, tout à fait. Ça peut être vraiment n'importe quoi. Ça peut être vraiment n'importe quoi. Ce qui va retenir mon attention, c'est une lumière qui traverse quelque chose, une forme, deux ou trois formes qui vont être posées l'une à côté de l'autre. C'est un truc comme ça, un point de départ. Et ça peut être vraiment n'importe quoi. C'est vraiment tout m'intéresse. C'est pas un paysage ou quelque chose en particulier. Vraiment tout.
Yo-Yo Ma, qu'est-ce qui vous a fasciné dans cette peinture?
Alors, c'est étonnant parce que ce qui m'a immédiatement attiré. C'est un mot qui n'a pas encore été prononcé par vous tous les deux, c'est le mot composition. On a parlé de couleur, on a parlé d'harmonie, on a parlé de sujet, on a parlé de motif. Et moi, très étonnamment, j'ai saisi, et peut-être compris, parce que je me rends compte maintenant que c'était effectivement ça, aussi une des parts de création de l'œuvre de Thierry, c'est la composition. C'est-à-dire que l'équilibre d'une toile ne vient pas du motif, mais vient de l'agencement et des formes et des couleurs et du rapprochement des couleurs. Et je pense que Thierry est un grand technicien aussi bien de la couleur, mais surtout de la composition. Mmh. Et moi qui suis évidemment historienne de l'art du XXe siècle, tout de suite, le parallèle que j'ai fait, d'ailleurs, on s'est rencontré presque au sujet d'un tableau de cet artiste, c'est Pierre Bonnard. Oui. C'est-à-dire que Bonnard, on se rend compte que s'il a fait au même titre que Monet, où ils ont décliné le même sujet inlassablement, ou Cézanne inlassablement avec le même sujet, c'est pas parce qu'ils avaient envie de peindre ce motif-là, ce sujet-là. C'est parce que la composition de ce sujet les passionnait. Et Thierry, c'est vraiment ça. Et si je dois revenir sur les ombres, je pense que les ombres sont justement là pour organiser et même imposer la composition. Mmh. Et après, le sujet, notamment là, toutes ces peintures californiennes, donc de vue de Californie, s'organise autour de cette composition et pour servir cette composition.
Alors, dans l'esprit et l'atmosphère, mais ça, c'est le néophyte qui vous parle. Moi, j'ai l'impression d'une peinture extrêmement aérée. C'est-à-dire qu'on peut la regarder, on ne peut que respirer. On respire des yeux. Vous élargissez toujours le champ et on respire vraiment ces couleurs et en fait cet espace que vous créez. Alors, il y a le mélange toujours minéral-végétal, l'urbain, le moderne, et en même temps l'atemporel qui revient toujours dans vos toiles. Vous prenez quelque chose d'anecdotique et vous en faites quelque chose d'atemporel.
Ça aussi à Los Angeles, hein. C'est-à-dire que comme je gravitais un petit peu sur Paris pendant un moment où il y avait pas mal d'une communauté de peintres qui gravitaient sur Paris, etc., ça m'a semblé intéressant. J'avais été en Chine beaucoup pour voyager, il y avait ce côté très spirituel un petit peu chez moi.
Et vous avez appelé la calligraphie.
C'est ça, et au temple de Shaolin, où je suis resté plus de 2 ans et demi, et... il me semblait intéressant d'aller dans un autre pays pour aller chercher quelque chose que je connaissais pas, un peu comme un enfant qui pourrait se retrouver devant des constructions. Je sais pas, il arrive en Bretagne, un enfant de 7 ans, il a jamais vu la Bretagne, et les maisons n'ont pas les mêmes toits, il y a des choses qui changent et on est devant une espèce de nouveauté, c'est nouveau. Et Los Angeles, ça me semblait intéressant. J'ai pas d'affinité particulière avec les États-Unis, mais ça me semblait intéressant d'aller là-bas parce que c'était un endroit en plus qui avait pas été beaucoup peint. Il y a beaucoup d'artistes à Los Angeles, mais il n'y a pas beaucoup qui peignent de cette manière-là, l'urbain, etc., les rues, c'est assez rare de tout ce que j'ai vu. Et ça me semblait intéressant d'aller là-bas et d'approfondir, de voir comment je pouvais m'en sortir avec ce pays qui était vraiment très intéressant au niveau des formes, etc. Et ça m'a beaucoup intéressé aussi parce que c'est nouveau.
Alors, Thierry Lefort, riposte figuratif, j'en parlais dans l'introduction. Donc, votre peinture est une peinture figurative, ce n'est pas une peinture abstraite. Et aux États-Unis, aujourd'hui, on retrouve le goût du figuratif, qui n'est pas encore arrivé en Europe, qu'on attend. Mais en ce moment, c'est aux États-Unis que ça bouge de ce côté-là. Vous le sentez ?
Oui, alors on pourrait dire aussi que c'est une peinture abstraite qui flirte avec le figuratif.
Oui, mais, oui, oui, tout à fait.
Oui, oui, mais c'est vrai qu'aux États-Unis, bon, il y a beaucoup, beaucoup, c'est ça qui m'intéresse aussi là-bas, c'est qu'il y a ça, ça foisonne d'artistes de tous bords. Il y a une belle énergie un peu nouvelle. Ou, Los Angeles, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas originaires de Los Angeles qui viennent là. C'est un peu comme New York, donc ça fait une espèce de communauté de gens qui viennent de l'Italie, qui viennent d'un peu partout, du Mexique et tout, et ça fait un brassage et c'est très intéressant pour la création. Et c'est vrai que ma peinture, finalement, quand elle est là-bas, elle est assez unique, bizarrement, alors que là-bas, il y a beaucoup, beaucoup d'art. Et c'est vrai, je suis forcé de le reconnaître, c'est vrai que c'est une peinture, comment je la traite et ce que je fais, c'est assez rare.
Mac, vous sentez ce courant figuratif qui pourrait envahir l'Europe prochainement ?
Alors,
moi, je le sens. Hein.
Oui, oui, complètement.
Mais on le sent par petites touches. Mais il suffit d'aller un peu dans les galeries et on voit que ça commence à bruisser.
Alors, d'abord, moi, j'ai jamais fait vraiment de séparation entre la figuration et l'abstraction. On en a des démonstrations, notamment avec Miro. Où je suis incapable de dire, d'abord les titres de Miro sont toujours très très poétiques, et quand on regarde
le clown, le soleil, voilà, et la colline,
oui, et puis toujours cet hommage à la femme, beaucoup aux oiseaux également, au-delà du surréalisme. Et mais en revanche, ce qu'il y a eu d'intéressant, et peut-être là en Europe on est un poil en retard, c'est un retour déjà à la peinture.
Oui.
Déjà.
Oui.
Et je trouve que en France et beaucoup en Allemagne, on reste sur la performance, l'installation, l'art
encore
conceptuel. Oui, je trouve encore aujourd'hui. Alors, pas exclusivement. Mmh, à un moment, on a vécu des années où c'était
exclusivement ça, absolument.
Où on souffrait un peu. Et moi, justement, j'avais des difficultés ayant côtoyé et exposé Gérard Gazurowski. Gazurowski était quelqu'un qui, sans doute, a fait les plus belles installations et performances qui soient, mais en ne s'écartant jamais de la peinture. Mmh. Ça paraît paradoxal comme ça à dire. Et je pense que la première phase qui était importante, c'est un retour au châssis et à la peinture. Et automatiquement, sans exclusivité sur l'abstraction. Donc Thierry est peut-être dans ce qui... Il annonce ce qui va se passer.
C'est le sentiment que j'ai absolument. Thierry Lefort, vous travaillez beaucoup les fonds de toile. Et on sent que vous avez vous êtes très très méticuleux dans le choix et dans la façon dont vous faites le fond. C'est voulu d'avance, je veux dire par là, c'est le fond qui guide la toile ou c'est le sujet qui va vous...
C'est un peu tout, mais c'est vrai que pour moi, le fond, c'est un peu les racines. Et c'est vrai que je trouve que quand on peut acheter une toile dans le commerce, elle a un côté un peu stérile.
Ouais.
Du coup, j'aime bien, avant de poser la peinture dessus, j'aime bien déjà me l'approprier avec mon propre fond.
Même ça, si vous ne savez pas encore ce que vous allez peindre.
Oui, oui, tout à fait. Je peux préparer des fonds de différentes sortes avec des techniques que j'ai élaborées. Et du coup, je fais des espèces de mélanges avec des fonds pour qu'il y ait des espèces de transparence. Et quand la peinture va venir dessus, ça va créer des choses un peu particulières. Donc ça, j'aime bien m'approprier la toile, en fait, le fond.
Comme si c'était un peu l'essence.
Tout à fait.
De ce qui va se passer. Parce que là, il y a un acte après.
Ouais, de préparer le lit un peu
de
la peinture qui va arriver, en fait.
Oui. Et ça, j'ai trouvé ça assez marquant dans votre travail, dans la façon de travailler. Quand vous arrivez à l'atelier, qu'est-ce que vous faites ?
Rien.
Ah ça, j'adore ça. J'adore ça.
Parfois, je suis capable de repartir chez moi parce que je fais rien. Et c'est vrai que même si on peut penser que je travaille beaucoup, etc., c'est vrai que c'est une image que je peux avoir comme ça. Mais honnêtement, la vérité, c'est que souvent, je viens à l'atelier et comme c'est très compliqué pour moi de commencer des tableaux avec les couleurs, ça me demande beaucoup en fait de sortir ça en fait, ce qui est des choses qui sont au fond de moi. Et parfois, j'y arrive pas ou j'ai pas le. Et du coup, je rentre chez moi et je fais rien.
Voilà.
Voilà. Ou alors je peins un truc qui n'a rien à voir avec la peinture. Je sais pas, je peins un truc, je peins un pot, n'importe quoi. Je fais quelque chose d'autre.
Vous aimez peindre les ciseaux ?
Oui, c'est ça. Oui, j'aime bien peindre les ciseaux parce que parfois, par exemple, quand je sais pas, c'est vrai que l'appétit vient en mangeant. donc du coup, je me dis tiens, comme je sais, j'ai pas envie de faire ça ou je sais pas trop, tiens, bah, je vais prendre les ciseaux puis je vais les peindre. Et puis parfois, ça peut me donner des idées parce que en travaillant les couleurs, tout ça, ça peut donner envie un petit peu. Et puis,
violet qui sort.
Mais par contre, quand je commence à travailler, je travaille. Ça, ouais. C'est sûr que je suis capable de plus m'arrêter. Mais c'est pas.
J'adore voir les artistes dans leur atelier lorsqu'ils arrivent.
C'est passionnant.
Vous avez vécu ça 1000 fois, Yo-Yo Mag.
Je suis éblouie à chaque fois, bouleversée toujours, timide.
Oui, bien sûr.
Très timide dans les ateliers d'artistes. C'est pas un exercice que j'aime.
Non, parce qu'il faut se mettre invisible.
Voilà. Et ouais. C'est un exercice qui me manque si je ne le fais pas.
Ah bah, je suis comme vous.
Voilà.
Alors, je vous invite d'ailleurs, vous êtes invité dans mon atelier quand vous voulez.
Mais je vais venir. Comptez sur moi. Je demandais un jour à Pierre Soulages ce qu'il faisait lorsqu'il arrivait dans son atelier, comme je vous pose cette question, parce que pour moi, elle est très importante. Et il me dit, j'attends. Si vous attendez quoi? Il me dit, j'attends d'oser. Voilà. Et c'est vrai que lorsque la toile est là, qu'est-ce qu'on fait? On y va, on n'y va pas. Parce que vous travaillez beaucoup en plein air, mais ensuite, vous travaillez
en fait, ce qui se passe aujourd'hui, mon travail, c'est-à-dire que le plein air, c'était intéressant, comme je dis tout à l'heure, pour développer la spontanéité, pour développer certaines choses, et puis c'est intéressant de le faire. Mais après, pour moi... J'estime que quand on veut aller beaucoup plus loin, le travail forcément se passe en atelier, parce qu'on peut avoir beaucoup plus de temps déjà pour composer, pour déconstruire ce qu'on a fait, et pour le recomposer de manière différente. Donc maintenant, ce que je fais, en fait, je travaille beaucoup d'heures pour des croquis, par exemple. Je fais des croquis, etc.
Et qui sont très précis. Hein.
Qui sont assez précis, assez ouais. Succincts quand même. Je travaille qu'en noir et blanc.
Et on sent déjà la composition dans ces croquis.
Je travaille en noir et blanc, ouais. Et comme ça, la couleur, elle doit sortir en fait de moi. Donc, c'est là où ça devient très compliqué. Donc, je travaille beaucoup dehors pour des prises de notes, etc. J'arrête pas, je me travaille toujours avec des croquis. Et après, une fois que je rentre à l'atelier, c'est là que ça se passe. Je dis, tiens, ça pourrait faire un format comme ça. Mais ça va pas parce qu'il y a ça, faut que j'enlève ça. Donc, il y a tout un cheminement avant de commencer le tableau.
Vous enseignez aussi et vous expliquez que...
Moi, j'enseigne, maintenant je fais quelques masterclass, j'enseigne beaucoup moins parce que déjà je me concentre beaucoup plus sur mon travail et j'enseigne beaucoup moins. C'était intéressant parce qu'on rencontre pas mal de gens divers et c'est sympa de voir comment je peux les aider ou comment... voilà.
Et on peut débuter quel que soit l'âge.
Oui, parce que le niveau, pour moi, comment dirais-je, on peut avoir un niveau technique, bien sûr, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi les émotions, il y a des gens souvent qui n'ont pas du tout de technique, qui ont des choses à sortir. Il y en a qui ont beaucoup de technique, qui ont moins de choses à sortir, etc. Donc le niveau, pour moi, il n'existe pas, en fait. C'est-à-dire qu'on est là au moment où on est, et on peut toujours travailler ensemble. Il n'y a pas de niveau, en fait.
Et là où on a envie de suivre cet enseignement, c'est que vous n'êtes pas un gourou au sens où vous n'imposez pas votre propre style
non,
à vos élèves, mais au contraire, vous essayez de trouver en l'élève quel est son style.
Voilà, comme je dis toujours, en fait, ce que j'apprends finalement, c'est comme si on rapportait ça au français, à une lettre, je sais pas, où on travaillait dans un cours de français. Donc, je peux corriger les gens sur les fautes d'orthographe, mais sur ce qu'ils ont à dire en tant que poème, là, je peux pas les aider. C'est à eux de chercher. Par contre, sur les fautes qu'ils vont faire d'orthographe simple, là, je peux les aider.
Ça doit être totalement passionnant de rencontrer, d'être dans ce type de dialogue.
Ah oui, c'est sympa, très, ouais. très.
Bon, mais vous en faites de moins en moins parce que.
Oui, j'en fais de moins en moins parce que déjà ma peinture.
Le poussez pas en reprendre. j'ai besoin qu'il soit assidu à son atelier.
Vous avez raison.
Ce qui se passe, c'est que ma peinture aussi, c'est une maîtresse qui est très très jalouse, qui supporte pas du tout. En plus, je suis complètement à son service et elle ne.
Voilà. C'est donc une femme passionnante.
Exactement.
Il y a des nus formidables dans votre œuvre. Il y en a d'exposés à la galerie.
Non, il n'y aura pas de nus cette fois-ci.
Eh bien, merci Yo-Yo Mag et Thierry Lefort. On vous retrouve dans cette semaine à la galerie Guillaume, 32 rue de Penthièvre à Paris, dans le 18e arrondissement pour cette exposition, pour aller découvrir votre travail.
8e.
Dans le 8e arrondissement. Oui, merci Yo-Yo Mag. Justement, vous avez signé La Saga Mag, c'est publié au Point Seuil, et on va lire ça avec bonheur, puisque c'est toute l'histoire depuis votre grand-père, voilà. Et tous les artistes que vous avez côtoyés et qui vous ont formé d'une certaine façon, ou qui ont aiguisé votre œil.
C'est exactement le mot, l'œil avec la liberté.
Merci Cédric, merci Dimitri pour la réalisation et François Dieudonné, Philippe Malpeuch, Camille Meyer pour la réussite technique de notre rendez-vous. Demain mardi, je recevrai Édouard Jousselin pour son roman La géométrie des possibles aux éditions Rivage. C'est un pavé de 600 pages, mais ça se lit d'une traite. Alors à demain, je vous embrasse.